Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Pierre Buzer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie pour une émission éclairage. Je précise à nos auditeurs que vous êtes professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie, neurobiologiste, neuropsychologue. Vous aurez l'occasion de nous préciser dans quelles fonctions vous rangez. Membre, bien sûr, de l'Académie des sciences. Je précise que vous avez rédigé des manuels de neurosciences pour étudiants et puis, plus récemment, des ouvrages grand public, dont les derniers, Cerveau de soi, cerveau de l'autre, paru en 98, ainsi que L'inconscient aux mille visages, paru en 2005, tous les deux publiés aux éditions Odile Jacob. Dans cette émission Éclairage, nous allons évoquer, si vous le voulez bien, les pathologies de l'identité, en tout cas deux spécifiques, les dissociations et les hallucinations. Vous vous êtes exprimé sur ce sujet à l'occasion d'un colloque qui s'est déroulé en février 2008 à la Fondation Simone et Cino del Duca, fondation de l'Institut de France, un colloque qui portait plus largement sur l'identité changeante de l'individu, donc nous sommes en plein dans le sujet, et auquel plusieurs intervenants ont parlé, des immunologistes, des généticiens, des philosophes, des théologiens. Alors, comme je le disais à l'instant, votre communication portait sur les dissociations mentales et les hallucinations. Alors, première question, si vous le voulez bien, Pierre Buzer, comment distinguer dissociation et hallucination? Est-ce qu'il existe une définition type pour ces deux pathologies?
Merci de me poser cette question. Vous avez d'abord fait allusion à mon parcours. Mon parcours est en réalité un véritable dédale assez complexe, puisque j'étais au départ un agrégé de sciences naturelles dans les années 46, et que progressivement je me suis intéressé et j'ai fait de la recherche en neurophysiologie, ça s'appelait comme cela autrefois. C'est devenu ensuite neurobiologie intégrative, c'est-à-dire que je m'intéresse aux organismes intégraux, en quelque sorte, et au comportement. J'ai été essentiellement intéressé par le comportement des animaux. Et progressivement, n'ayant plus d'animaux à partir du moment où j'ai pris ma retraite, je n'ai eu que deux intérêts. C'est d'une part essayer de résumer encore les anciens travaux, les anciens résultats que j'avais obtenus avec certains de mes collaborateurs, et deuxièmement, de virer en quelque sorte vers les sciences cognitives. Ce dont je vais vous entretenir, il s'agit de la dissociation et des hallucinations, c'est-à-dire deux pathologies de l'identité, en quelque sorte, qui n'ont réellement qu'un rapport assez distant. Mais j'aurai l'occasion d'en parler à la fin, ce sera ma conclusion, que ces deux pathologies, ces deux morbidités sont, malgré tout, il y a une certaine continuité entre les deux, mais avec des distinctions que l'on peut faire. Je reviendrai, ce n'est pas la peine que je le dise maintenant, parce que ça enlèverait un tout petit peu d'intérêt à la suite.
La dissociation a été étudiée par Pierre Janet, qui est un psychologue du 19e siècle. Vous évoquez beaucoup les travaux de Pierre Janet. Est-ce que depuis, il n'y a pas eu d'autres recherches?
En étudiant ce problème des dissociations mentales, car je précise que je ne suis pas psychiatre. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis même pas médecin. Donc, mes connaissances sont essentiellement du côté livresque, bien sûr, et du côté de la cognition. J'ai, dans ces conditions, découvert, si je puis dire, je n'ignorais pas l'existence de Janet, mais j'ai un petit peu découvert l'importance de ce qu'il a dit. Dans mon appartement, j'ai un bureau où j'ai toutes sortes de bouquins, bien sûr, comme tous mes confrères, et le livre principal de Janet, qui est l'automatisme psychologique, me guettait et me regardait depuis des années sans que je l'aie ouvert. Et en préparant cette conférence, en particulier, bien sûr, je prononçais déjà le nom de Janet, même quand je faisais quelques cours à la fin de ma vie universitaire. Je faisais des cours un peu plus cognitifs et je parlais de Janet, de Pierre Janet, mais jamais je ne m'étais véritablement penché sur son travail. Et j'ai découvert que c'était un homme extrêmement intéressant, très observateur et qui avait accumulé une somme de données qui était indubitablement importante, mais qui a été, il faut le dire, qui a été un petit peu effacée par d'autres auteurs plus connus, qui sont, pour des raisons variées, vous savez, dans notre métier, au sens large, il ne faut pas seulement savoir faire, mais il faut faire savoir surtout. Et je dois dire que Freud, bien sûr, a dominé complètement la scène à ce moment-là. Mais quand on lit ce qu'il a fait, on constate que ses observations sont d'une excellente valeur.
La dissociation, l'explication, la définition qu'on trouve, je vais vous la lire, vous allez me dire si ça correspond en partie ou pas du tout à ce qu'on définit comme dissociation. La dissociation décrit un écroulement de l'ego si intense que la personnalité est considérée comme littéralement cassée en morceaux.
C'est exactement cela. Et l'origine du travail de Janet, de l'intérêt de Janet, était d'une part sur les hystériques. Car dans cette période de la fin du 19e, au tournant du siècle, comme on dit, les hystériques, les femmes surtout, il n'y avait très peu d'hommes hystériques, mais les femmes qui présentaient une symptomatologie complexe que nous connaissons les uns et les autres, plus ou moins, par des ondits, par des photographies, et ainsi de suite. Ce sont des femmes que l'on présente avec les cheveux dans tous les sens, qui crient, qui s'agitent, qui sont très agitées et qui souvent perdent connaissance. Alors, ces troubles ont été considérés par Janet comme liés à des traumatismes de jeunesse, chez ces femmes en particulier.
Des agressions, patientes. Par exemple ?
À ce moment-là, on ne parlait pas trop, parce que la société étant très prude et surtout très hypocrite, beaucoup plus que la nôtre maintenant, on a su plus tard que des dissociations pouvaient avoir été créées ou des multiples personnalités à la suite de traumatismes liés, par exemple, à des incestes ou à des viols des enfants. Alors, dans ces conditions, donc, ces femmes traitées par Janet étaient hystériques. Et pour lui, c'était un traumatisme de petite enfance. Et il les traitait essentiellement par l'hypnose, considérant que la maladie était une maladie non pas somatique, mais véritablement une maladie psychique. Et que l'hypnose, dont il ignorait totalement les mécanismes, car on ne les connaît pas encore maintenant. Actuellement, l'hypnose est un phénomène qui est très peu décrit, très peu étudié surtout, et on en reste à des vieilles descriptions. Mais phénoménologiquement, c'était un fait que l'hypnose, que pouvait induire Janet avec les méthodes que l'on connaît, le malade ou la malade est étendu sur un divan, et ensuite on procède également à des fixations oculaires sur le malade, et ainsi de suite, enfin ceci est bien connu, en particulier par le cinéma. Eh bien, dans ces conditions, Janet arrivait, a-t-il dit, à guérir plus ou moins ses malades. C'est un premier temps. À ce moment-là, interviennent des luttes sur la signification de l'hypnose. Parce que, entre-temps, Charcot avait, pour des raisons un peu amusantes, avait été conduit à s'intéresser aux hystériques.
Donc le neurologue Charcot.
Alors Charcot, il faut le savoir, n'était pas du tout un psychiatre. C'était un neurologue qui s'intéressait à des maladies spinales, des maladies de la moelle épinière, en particulier la sclérose latérale amyotrophique. Il se trouve que l'administration de la Salpêtrière avait été obligée d'évacuer un autre service qui n'était pas loin de celui de Charcot, où se trouvaient des hystériques. Et Charcot a découvert ces hystériques qui étaient tout à coup arrivées dans son service. Et il s'est intéressé, il s'est passionné, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, il s'est passionné pour l'hystérie.
Pour l'hystérie, peut-être que je me trompe, hein, vous m'arrêtez tout de suite, mais j'ai l'impression qu'on parle plus de Charcot dans le domaine de l'hystérie que Janet à l'heure actuelle, dans les travaux.
Oui, il est vrai que Janet a su faire, mais il n'a pas su faire savoir.
Oui, et puis peut-être rajouter qu'à cette époque-là, Charcot utilise la photographie qui est arrivée. Alors, et je crois qu'il est un des premiers à photographier ses patients, ses femmes hystériques.
Il est exact que nous trouvons dans beaucoup d'ouvrages la fameuse image de l'examen d'une hystérique par Charcot. Il faut dire qu'à ce moment-là, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et il a de grands ennemis en la personne de Bernheim, qui est professeur à Nancy. Et pour faire bref, Bernheim a véritablement montré, Bernheim et des collaborateurs, en particulier un Belge de nom de Delboeuf, ont pu véritablement insister sur les erreurs que faisait Charcot dans le traitement de l'hypnose. Et Jean-Marie Charcot avait posé comme hypothèse que l'hypnose est un phénomène biologique, c'est qu'on voit revenir le neurologue, c'est-à-dire qu'il veut interpréter un phénomène mental, une activité mentale complexe, en fonction de mécanismes biologiques. Et d'autre part, Bernheim et Delboeuf déclarent en quelque sorte qu'il y a des erreurs dans les traitements de Charcot et que pour eux, pour les nancéens, l'hypnose ne serait qu'un simple effet d'un phénomène social et intersubjectif omniprésent et incoercible, influence de l'apprentissage et de l'imitation. Autrement dit, c'est déjà le début d'une lutte entre les pro-biologiques et les pro-sociologiques. C'est-à-dire que pour Bernheim, c'était un phénomène sociologique. C'était en quelque sorte un phénomène collectif.
Et qu'en est-il des personnes qui, comme Freud, pensent pouvoir soigner les hystériques par la psychanalyse?
Alors, nous en arrivons à Freud. J'avais l'intention d'en parler, de Freud. Si vous permettez, je préférerais tout de suite parler des dissociations de Janet, et puis je reviendrai à Freud dans
D'accord.
un instant.
Si vous le voulez bien, Pierre Buzère, avant de poursuivre, on va marquer une courte pause, et puis on reprendra tout de suite après la pause musicale. À tout de suite.
Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de l'académicien des sciences Pierre Buzère, avec qui nous parlons de dissociation et d'hallucination. Dans cette deuxième partie d'émission, Pierre Buzère, effectivement, on parle de dissociation et vous avez évoqué, pour les dissociations, de multiples personnalités. Alors, est-ce que ça signifie que, par exemple, les états schizophrènes entrent, puisque les états schizophrènes, on sait qu'il y a plusieurs personnalités également, est-ce que ça entre dans la catégorie des dissociations?
Votre question est une question difficile, en fait, parce que le travail de Janet n'a pas été véritablement toujours axé sur la schizophrénie qui, à ce moment-là, était une maladie qui n'avait pas vraiment été décrite dans son ensemble. Il ne faut pas oublier que la schizophrénie n'a été décrite que quelques années plus tard par Bleuler, qui était un neuropsychiatre suisse. Bleuler a donc décrit et isolé, en quelque sorte, donné corps à l'entité nosologique qu'est la schizophrénie. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de développement sur cet aspect de la question. Ce que nous décrit Janet, ce sont des personnages en général des femmes, des jeunes femmes, qui peuvent changer de personnalité, tout à coup. Il en décrit plusieurs qui, de temps en temps, changent de personnalité. Là, l'exemple le plus classique, parce qu'il est le plus complexe d'ailleurs, c'est celui d'une dénommée Lucie.
Qui a trois identités.
Qui a trois identités. Il y a Lucie 1, Lucie 2 et Lucie 3, qui se faisait d'ailleurs appeler Adrienne. Il était donc question pour Janet de scission de la conscience et de la personnalité. Janet l'expliqua par un affaiblissement de la puissance de synthèse, pour différentes raisons pathologiques, constitutionnelles ou événementielles. L'émotion ayant une action dissolvante, ça on peut évidemment le penser. Le point important concernant ces dissociations pour Janet réside dans le caractère intact des fonctions, oui. Parce que ce que Janet considère, et qui s'est avéré vrai dans la suite, c'est que les diverses fonctions de l'individu, ces diverses fonctions, la mémoire, la perception, la préparation à l'action, l'attention, ces diverses fonctions se maintiennent dans le cas d'une dissociation. Lucie 2 et Lucie 3 est capable d'attention, de perception, et ainsi de suite. Et ceci est très différent d'une psychose hallucinatoire, en particulier chez schizophrène. Parce que, comme nous le verrons tout à l'heure, la schizophrénie, elle, implique dans les cas d'hallucination, ou chez les psychotiques, non seulement une dissociation, mais également, en plus, une désorganisation complète des diverses fonctions, pris à la limite et donné en bref. Voilà donc une différence entre la dissociation et l'hallucination. C'était un peu la question que vous me posiez. Alors, pour poursuivre l'histoire, je dirais simplement, à titre d'information, qu'il y a eu quelqu'un qui était même avant Janet, puisqu'il était né en 1822, qui s'appelait Azam, et qui a également fait des études sur le dédoublement de la personnalité. Il décrit une certaine Félida, qui elle aussi présente cette fois-ci simplement deux états, un état souriant et un état normal triste, et un état de gaieté et de générosité, qui est l'état second. Alors, ce qu'il y a aussi bien chez Janet que chez Azam, il se produit ceci, c'est que quand le sujet n'est pas dans son état normal, entre guillemets, il se souvient de ce qui s'est passé dans l'état normal, mais quand il est en état normal, il ne se souvient pas de ce qui se passe dans la profondeur.
De ces crises, entre
guillemets. Oui, car finalement, quand je geste d'en haut en bas, j'exprime quelque chose qui domine tous ces raisonnements et toutes ces considérations. C'est l'idée d'une descente, en quelque sorte, du superficiel au profond. Et que le fait que dans une double personnalité, la personnalité non normale, anormale, soit plus profondément située, tout ça c'est une image bien sûr, que la personnalité normale.
Vous avez évoqué au cours de votre communication, lors du colloque de la Fondation Simone Cino del Duca sur l'identité changeante, vous avez évoqué les épidémies de dissociation en Hollande et aux États-Unis entre 70 et 90. Ça correspondait à un contexte historique particulier, oui. Je suppose. Qu'est-ce qui provoquait ces épidémies de dissociation ?
Je vous remercie de cette question. Auparavant, vous m'aviez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. C'était la réaction de Freud.
Sur Freud,
Sur Janet. Or, après, je n'aurai plus l'occasion d'en parler. Simplement pour dire que Freud n'a pas aimé Janet, apparemment, et il n'a pas cru à ses morcellements de personnalité. Il y a des arguments divers. Ce qu'on dit, c'est qu'à la fin de sa vie, Freud semble avoir rencontré des cas de psychose qui pouvaient ressembler à des dissociations et il avait utilisé le terme allemand de Ich-Spaltung, c'est-à-dire de coupure du moi, coupure du soi.
Mais vous expliquiez aussi lors de votre conférence que Janet et Freud n'avaient pas les mêmes patients, donc ils pouvaient
c'est plus général d'ailleurs. Quand on compare Freud et Janet, il faut faire attention au point suivant. C'est que les patients de Freud et les patients de Janet n'avaient pas tout à fait toujours la même origine sociale. Les patients de Janet étaient un peu le tout-venant d'un hôpital, tandis que les patients de Freud étaient plutôt issus de la bourgeoisie viennoise. Et la bourgeoisie viennoise, en général, d'un niveau social assez élevé.
Donc vous pensez que ça pouvait jouer ?
Ça n'est pas impossible que dans certains cas, pas nécessairement les dissociations, mais d'autres choses, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais enfin, je pense qu'il faut tout de même en tenir compte quand on veut comparer les deux. Alors, vous m'avez posé, et ceci nous amène au deuxième aspect des dissociations.
Les épidémies.
C'est les épidémies, comme vous dites si bien, les dissociations aux contemporains. Il y a eu des épidémies de dissociation qui ont été décrites dans les années 1970, et qui ont disparu ensuite en 90, qui sont apparues aux États-Unis, un petit peu en Hollande, mais finalement très peu en France. Et plusieurs auteurs ont retrouvé la généalogie de cet étrange épisode de dissociation avec des personnalités multiples, indépendantes, au sein d'une même personne, morcellement dont l'origine serait traumatique, et en principe toujours traumatique.
Donc ça correspond à des épisodes de guerre, par exemple ?
Exactement. Alors, il y a eu aux États-Unis le MPD, Multiple Personality Disorder. La théorie sous-jacente au MPD est que le morcellement psychique est le produit d'un traumatisme précoce grave, d'autant plus grave que le morcellement est important. Il n'y a pas d'autre étiologie imaginable. Lorsqu'on a décrit le MPD, il n'y avait pas. Alors ensuite, bien sûr, il y a eu des actions judiciaires, des plaintes, des jugements qui ont fait disparaître aussi rapidement qu'elle avait flambé cette épidémie iatrogénique, en quelque sorte, sociologique, de dissociation de la personnalité. je tiens à dire que les renseignements que j'apporte dans cette, pour cet épisode récent, donc contemporain, viennent essentiellement d'un ouvrage de Jan Hacking qui s'appelle « L'âme réécrite, étude sur la personnalité multiple et les sciences de la mémoire ». Alors, il y a eu donc une deuxième invasion, en quelque sorte, de ces syndromes de dissociation qui sont apparus à la suite de la guerre du Vietnam et qui ont mené à la création, sous la pression du lobby des vétérans, du PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, qui a figuré dans le DSM-3, c'est-à-dire le manuel de psychiatrie américain. Numéro 3, maintenant dans le 4, il semble que dans le dernier paru, que les choses aient été atténuées. En bref, l'analyse a montré que la sémiologie et les modèles du trauma de guerre ont évolué en s'influençant réciproquement. Oui, on s'est posé la question, dans quelle mesure est-ce que les traumatismes influencent les gens, les traumatismes, les traumatisés, créent une ambiance autour d'eux, et dans quelle mesure les médecins sont eux-mêmes amenés à réagir à ces traumates. Autrement dit, nous étions dans un système un peu circulaire. Qu'est-ce qui dominait ? La dissociation mnésique, c'est-à-dire la mémoire, la dissociation de la mémoire, ou bien au contraire, l'existence, dit le texte, d'une plaie ouverte dans la mémoire des traumatisés, est-elle un artefact socialement construit ou bien constitue-t-elle le produit d'un mécanisme neurobiologique universel ? Autrement dit, est-ce que la maladie, pour faire bref, est plus simple, est-ce que la maladie existe en tant que telle ou bien n'est-ce pas l'influence d'un effet social ? Nous retournons toujours vers le même point dans ces dissociations, c'est l'importance du milieu social.
Vous nous avez expliqué très bien d'ailleurs que les dissociations étudiées par Janet venaient d'un traumatisme dans la jeunesse. Là, en l'occurrence, ce sont des militaires qui ont fait la guerre et ils n'ont pas fait la guerre en étant enfants. Donc ça veut dire que ce sont des dissociations qui interviennent beaucoup plus tard chez l'adulte.
Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand on lit Hacking, on s'aperçoit que des syndromes de dissociation existent toujours encore, même encore récemment. Par exemple, alors là, ça va dans le sens, votre sens, c'est-à-dire que ce sont d'autres traumatisés de guerre, en particulier le Gulf War Syndrome, le syndrome de la guerre du Golfe. Ensuite, il y a également d'autres thérapies hypnotiques d'abus sexuels qui ont précisément permis de montrer qu'avec cette hypnose, on pouvait guérir des traumatisés, des traumatismes qui étaient liés à des abus sexuels. Et ça, ce n'est pas la guerre qui les produit, c'est tout simplement parce qu'en cherchant bien, dans une population, on trouve souvent des enfants, des personnages déjà adultes ou adolescents, qui ont été traumatisés dans leur enfance et qui, véritablement, créent un petit peu un syndrome collectif. C'est toujours la même chose. Il y a la tendance d'avoir une certaine collectivisation de ces syndromes, alors que, bien sûr, ils ont initialement une origine importante.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Pierre Buzère. Dans la troisième partie, je vous propose de parler plus spécifiquement des hallucinations. À tout de suite.
L'écrivain Frédéric Vitoux de l'Académie française se confie à Canal Académie. Il raconte sa passion pour Céline, sa biographie de Rossini, son œuvre de critique, de romancier, de scénariste. Frédéric Vitoux, une vie littéraire bien remplie, dans l'émission En habit vert sur Canal Académie.
Troisième partie de notre émission Éclairage consacrée aux dissociations et aux hallucinations. Une communication de Pierre Buzère qui est avec nous dans le studio de Canal Académie. Une communication qui avait été réalisée dans le cadre d'un colloque sur l'identité changeante à la Fondation Simone et Cino del Duca en février 2008. Dans cette troisième et dernière partie, ma foi un peu courte, mais nous allons faire le maximum pour pouvoir en parler le plus possible. Nous allons donc évoquer les hallucinations. Alors, comme vous me le disiez pendant cette pause, Pierre Buzère, il faut distinguer hallucination avec illusion et hallucinose. Alors justement, je vous propose de nous faire la différence entre les trois.
Effectivement, je n'ai plus beaucoup de temps, malheureusement, pour parler des hallucinations. Mais bon, ce n'est pas la peine de les définir, sinon tout de même pour dire que l'hallucination n'est pas une illusion, ce n'est pas non plus une perception. L'hallucination, c'est véritablement la vision de quelque chose qui n'existe pas. Bon, C'est une perception sans objet à percevoir. Ça, c'est l'hallucination.
C'est par exemple lorsqu'il fait très très chaud, quand on est, quand on voit la route.
Non, je ne crois pas.
C'est une illusion.
Vous allez me parler des mirages.
Exactement.
Oui, je ne pense pas. Justement, j'en ai discuté avec quelqu'un l'autre jour. Il semble que ce soit plutôt une illusion. Voilà.
Donc il y a comme un flou juridique, si j'ose dire.
Il y a un flou. Il y a un flou scientifique.
Il y a un flou scientifique.
Mais surtout un flou de terminologie. Et dans les hallucinoses, le patient voit des choses bizarres, mais il n'y croit pas. Il dit, je vois ceci, je vois une chouette, mon pot de fleurs, hein, je vois une chouette dedans, mais ce n'est pas vrai. Le patient ne croit pas à son hallucination. C'est
donc,
une hallucination.
Comme s'il savait qu'il pouvait être sujet aux hallucinations et qu'il avait une certaine maîtrise.
Oui, c'est ça. Exactement. Alors, il y a, donc, c'est classique, ça, les hallucinations plutôt, qui relèvent plutôt des sensations, c'est-à-dire on voit, on sent. Ou bien alors les hallucinations psychiques sont des hallucinations de voix intérieure et des choses de ce genre. Donc ce sont des perceptions qui n'existent pas. Il n'y a pas d'objet de perception, mais ça vient plutôt de l'intérieur, entendre des voix, par exemple, des choses de ce genre. Bien. Je ne vais pas vous distinguer trop les conditions dans lesquelles apparaissent ces hallucinations. Pour l'essentiel, il y en a chez les normaux, rares. On a pu observer des hallucinations chez des sujets, par exemple dans des grottes, qui restaient isolés, ou bien à l'obscurité, ou même à la lumière, mais qui n'avaient absolument aucun contact avec l'extérieur pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle des déprivations sensorielles. Il vaut mieux de l'obscurité, bien sûr. Mais ce sont des déprivations sensorielles, on a des exemples de déprivations sensorielles qui créent des hallucinations. Alors, nous avons d'autre part des hallucinations dans des cas pathologiques, bien sûr, dans des cas neurologiques que l'on connaît, qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie d'ailleurs, ce sont des cas neurologiques, dans l'épilepsie, dans les tumeurs cérébrales, on peut avoir des hallucinations. Et alors, la plus grande part des hallucinations sont dans des syndromes psychotiques, c'est-à-dire la schizophrénie en particulier. Alors, ce sont ces hallucinations-là qui sont bien entendu les plus intéressantes à étudier. Je voudrais dire un mot de la façon dont on a traité les hallucinations, c'est-à-dire qu'avec les dissociations, nous n'avions pas pu aller loin, on ne peut pas aller loin dans l'exploration des mécanismes cérébraux. Mais dans le cas des hallucinations, même chez les psychotiques, schizophrènes, on a pu étudier un certain nombre de mécanismes de l'hallucination. Alors,
on voit par exemple le cerveau, les zones qui sont...
Oui, enfin, un peu. Il y a des études pharmacologiques. Malheureusement, les études pharmacologiques ne sont pas extrêmement intéressantes, bien qu'il en existe beaucoup. Mais ce qui a intéressé, ce qui a retenu surtout les chercheurs, ce sont les hallucinogènes, c'est-à-dire les substances comme le LSD en particulier et d'autres substances hallucinogènes. On s'est demandé si ces substances n'allaient pas nous donner la clé de certaines hallucinations, ce qui n'est loin d'être réalisé. La deuxième approche qui est intéressante aussi, peut-être plus intéressante, c'est l'imagerie cérébrale. C'est-à-dire les études faites avec des méthodes tout à fait modernes, où l'on suit les aires, enfin, indirectement par la circulation, on peut savoir quelles sont les aires actives du cerveau. Et on s'est aperçu d'un point, je suis très bref, on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand nous avions des hallucinations auditives, eh bien c'est très simple, c'est notre aire auditive qui se met en route. Et il y a aussi d'autres aires, il y a le cortex frontal en avant, mais ce sont les aires auditives qui sont mises en route, surtout à droite, enfin bref. Ceci sont des détails. L'air visuel, c'est donc les airs comme si c'était une perception. C'est l'air qui est mis en route, il n'y a pas de stimulation.
Il n'y a rien qui le déclenche en réalité.
Il n'y a rien qui le déclenche, ça s'autodéclenche en quelque sorte. Et alors, pourquoi ça s'autodéclenche ou pourquoi est-ce que le sujet ne se rend pas compte que son hallucination ne vient pas de l'extérieur? Eh bien, c'est un peu plus compliqué à expliquer. C'est parce qu'on a pensé que chez l'individu normal, nous avions un système de contrôle des sources de des stimulations qui nous sollicitent. Quand nous sommes sollicités par une stimulation, l'air visuel, par exemple, envoie des informations qui nous permettent de savoir que ça vient de l'extérieur, ce qu'on appelle des décharges corollaires. Et à ce moment-là, le sujet sait que ça vient de l'extérieur. Et quand il a une perception interne, chez le sujet, nous aussi, nous avons des perceptions internes, nous savons que ça vient de nous. Mais les perceptions externes, nous savons que ça vient de l'extérieur parce qu'il y a cette décharge corollaire. Voilà le genre d'étude théorique, plutôt, qui conduit à ce que je vous dis.
Et justement, alors, sur ces études théoriques, on sait quelles solutions apporter. Est-ce que la psychanalyse, exemple,
oui, il n'est pas impossible. Personnellement, je ne veux pas prendre parti au sujet d'une controverse qui traîne dans des décennies successives. Faut-il traiter la schizophrénie par l'analyse ou faut-il traiter la schizophrénie par la médication? Je vous dirais que personnellement, je suis totalement pour la médication, mais comme les médications ne sont pas parfaites, ce que nous voyons en général, ce sont des thérapies mixtes plutôt, où le psychiatre à la fois administre des drogues dont il connaît l'effet, et puis aussi peut à l'occasion faire de la psychothérapie, non pas nécessairement une vraie analyse, mais au moins une psychothérapie.
Souhaitiez-vous rajouter quelque chose, Pierre Buzère, sur ce domaine si vaste et si complexe de l'hallucination et de la dissociation?
Oui, je voudrais ajouter un mot. Vous m'avez fait parler de l'analyse. Eh bien, un des thèmes que j'ai beaucoup affectionné dans ce séminaire, c'est l'imaginaire. Alors, je ne pourrais pas, évidemment, vous en parler, mais dans l'hallucination, on peut dire que nous avons un imaginaire. Nous avons un imaginaire pulsionnel, personnel, nous avons un imaginaire social, institutionnel et un imaginaire sacral. Et alors, ce sont les trois imaginaires dans lesquels nous vivons un peu, plus ou moins, et nous vivons bien entendu hors imaginaire. Jean Delay a dit quelque chose d'important. L'image ne devient par sa seule force de perception que lorsque fait défaut tout l'appareil de distinction du réel et d'imaginaire. L'hallucination appartient non à la pathologie de la perception, mais à celle de la croyance. La psychanalyse a, elle aussi, proposé, avec la complexité qu'on lui connaît, des interprétations des hallucinations plus ou moins centrées sur l'imaginaire. Les discussions s'articulent principalement autour des trois registres proposés par la pensée psychanalytique, le réel, l'imaginaire et le symbolique. Alors, je ne peux pas développer, évidemment, ces points. Les hallucinations sont pour Freud un désinvestissement du système conscient au profit du système inconscient. Ceci est important. Il insiste sur l'importance du moi dans l'hallucination, le moi, le « ich » de Freud, le voyant comme une instance englobant la multiplicité des pulsions et des désirs de la personnalité. Voilà. Alors, pourquoi l'hallucination est-elle pathologique? Parce que dans un accès psychotique, la part de croyance dans le monde qui normalement accompagne toutes les actions, toutes les perceptions, toutes les pensées, a été remplacée par une certitude absolue, une prétention à la connaissance du réel, qui cette fois semble sans borne et signe sans conteste la morbidité. Donc on croit à tout. Et puis, par quel mécanisme? Point d'interrogation. Avec Freud et Lacan, on part du principe que l'hallucination n'est pas un phénomène indifférent, accidentel, mais on lui suppose une signification par rapport à un désir. Chez les sujets psychotiques, la libido, il faut tout de même en parler, inconsciente, le principe de plaisir serait trop puissant, annihilerait toute réalité et se substituerait à elle. Et je conclurai cet exposé par une comparaison entre la dissociation et l'hallucination. Dans la dissociation, ai-je dit, il y a une sorte de cassure entre les fonctions. Les fonctions sont séparées les unes des autres, en quelque sorte, l'attention, la perception, ainsi de suite. Mais chacune de ces fonctions garde son intégrité, en quelque sorte. Et dans l'hallucination, ça va beaucoup plus loin. Dans la psychose, ça va beaucoup plus loin. À ce moment-là, on a une sorte de désorganisation, même à l'intérieur des fonctions psychiques séparées. Et alors, en fin de mon texte, je disais ceci, c'est que dans l'hallucination schizophrénique, c'est d'une dégradation qu'il s'agit, avec des fonctions se trouvant cette fois en une poussière d'idées, d'habitudes, d'instincts, de constructions tombées en ruine, ainsi que le disait à peu près Pierre Janet. Et j'ajoute ce grand oublié. Et c'est là-dessus que je terminerai.
Et on en arrive de ce fait à la conclusion à laquelle vous vouliez en venir au début de cette émission. Vous nous expliquiez que l'hallucination et la dissociation étaient des choses différentes et pourtant il y avait une certaine continuité. Donc nous sommes arrivés à cette conclusion. Merci Pierre Buzère. Je vais terminer en invitant nos auditeurs à télécharger également les interventions de François Théré, de Jean-François Bach et de Bernard Roch dans notre rubrique En colloque qui correspond tout simplement à la retransmission au retransmission de leurs interventions au sein du colloque sur l'identité changeante qui s'est donc déroulé en février 2008 à la Fondation Simone et Sino del Duca, Cino del Duca, colloque auquel vous avez participé. Et puis, j'invite également nos auditeurs à télécharger sur Canal Academy une précédente émission à laquelle vous avez participé sur l'approche sociale et scientifique des raisons de l'illettrisme. Autre sujet passionnant, émission à laquelle le philosophe Bertrand Saint-Sernin de l'Académie des sciences morales et politiques et vous-même avez donc participé. Merci beaucoup, Pierre Bizard, de votre visite et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci.